J'ai une question.
Lors d'une visite de la synagogue dans le cadre des journées du patrimoine, un monsieur voyant les drapeaux et ayant entendu la prière pour la République française qu'on lit effectivement dans toutes les synagogues, me dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de lire la prière pour la République française alors que vous êtes citoyen comme tous les autres ?» Est-ce qu'à la cathédrale, on fait la prière pour la République française? Est-ce qu'au temple, on fait la prière pour la République française? Alors pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de le faire? Je n'ai pas su lui répondre.
Première question.
Moi, je pense
que c'est-à-dire que dans le midi, à un endroit où je vais, là, près de Toulon, il y a une prière pour la France.
Enfin, un constat ou une question?
Ben non, mais pour dire qu'il y en a, peut-être pas chez nous, ici, mais...
Non, mais dans
quelque chose.
Excuse-moi, ce que je voulais dire, il est possible que dans un lieu précis, il y ait cette prière également, mais dans toutes les synagogues de France, qu'elles soient consistoriales ou pas, on fait la prière pour la République française. Et comme disait M. Haddad, lorsque je suis au Maroc, si je suis citoyen marocain, je vais faire la prière pour le roi du Maroc. Donc c'est institutionnel, c'est pas simplement, je dirais, une particularité locale. C'est le sens de ma question.
Une deuxième question, puis une troisième.
Le même qu'il faut compter à tout le monde, c'est la loi de l'État qui prime, c'est la loi religieuse. Ça, c'est-à-dire que la communauté l'intègre.
Pas d'autres questions? Oui, Eric.
Vous avez parlé du 7 octobre, et vous avez simplement parlé des Juifs, et vous avez juste évoqué le fait qu'on passait de 600 000 à 400 000. On va voir un petit peu plus. Ah oui.
Marie-Christine.
Est-ce que toutes les langues un peu métisses, comme le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, sont en voie de disparition ou est-ce qu'il y en a quelque part qui arrivent à résister un peu?
Alors, on pose une question, un juif y répond par une question. Et pourquoi dans les lieux de culte, on ne prierait pas pour ceux qui gouvernent? Pourquoi on n'appellerait pas la bénédiction de Dieu pour les citoyens et souhaiter que tout le monde soit heureux, en paix, qu'il y ait la paix sociale, qu'il n'y ait pas de débordement, de haine. Donc, au contraire, ça me paraît une évidence de venir. Parce que, d'abord, on a dit, la vocation, en tout cas, des descendants d'Abraham, c'est « seront bénis par toi toutes les familles de la terre ». Donc, souhaiter la bénédiction, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « bonjour », donc on le bénit, on lui souhaite qu'il y ait un bonjour. Et en hébreu, on dit « Shalom alechem, ou en arabe, salam alaikum, la même chose. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le bénit. Le sens de se saluer, c'est de souhaiter à l'autre qu'il soit dans le bien. Bonjour, bonsoir, tout à l'heure je vous dirai bonne nuit. J'espère que vous allez bien dormir, que vous n'allez pas faire un cauchemar, que le repas que vous avez mangé tout à l'heure, il ne va pas vous gargouiller pendant toute la nuit. Donc, au contraire, on a perdu le sens de la bénédiction parce que nous sommes dans une société individualiste. Mais on n'est pas tout seul, on vit avec les autres. Alors, moi je trouve que le président Trump, on pense qu'on veut de lui, mais il a demandé un rabbin, un pasteur, un imam, il a demandé la bénédiction. Ben, c'est bien, en plus ça fait que finalement on est dans la bénédiction de son point de départ et... Voilà, moi je répondrais que c'est plus, du point de vue de la foi, c'est plus naturel d'exprimer des bénédictions au nom de Dieu, éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre, que d'être replié simplement sur son culte. Donc pour moi, c'est voilà. Comment on est passé de 600 000 à 400 000 c'est difficile à dire, est-ce que la population est plutôt vieillissante et il y a des départs de l'autre côté, et aussi il y a des déplacements. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui quittent la France. Alors, c'est pas seulement pour des raisons d'antisémitisme, c'est aussi, ça peut être aussi pour des raisons professionnelles. Vous avez beaucoup de familles, ils ont leur fils ou la fille, ils sont à Singapour, ils sont en Chine. Parce qu'aujourd'hui, le travail, ben, il se trouve où il y a du travail. Si il y a une crise économique, on se dit que c'est difficile, mais j'ai la possibilité de trouver du travail bien payé, ben, c'est vrai que ça éclate les familles. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? Si les enfants et les petits-enfants sont dans un autre pays, alors les grands-parents vont dire, bon ben, nous aussi on va partir, on va pas rester nos vieux jours et loin. Alors des fois, ils rejoignent les enfants, les petits-enfants. Ça peut être aussi le choix, en effet, d'aller vivre en Israël. Voilà. À ce moment-là, ça serait plutôt une cause peut-être d'antisémitisme, ou alors par idéal. Voilà. Excusez-moi, hein, parce que je m'excuse pour ceux qui... Bon, c'est comme un peu délicat, alors je dis c'est idéal pour un juif, mais je comprends aussi les Palestiniens, alors c'est idéal pour eux aussi d'avoir la terre, donc je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment, j'ai l'estomac tordu depuis le 7 octobre, je ne sais pas comment faire, mais voilà, j'essaie d'expliquer, donc il faut essayer de comprendre du point de vue de l'un, du point de vue de l'autre, et ensuite on essaye de construire quelque chose, voilà, mais dans la paix, pas dans la guerre, pas dans la violence. Donc il est possible que par un idéal aussi, certaines familles ont voulu vivre en Israël parce que les enfants, les petits-enfants sont là-bas. Donc c'est toujours, on suit c'est comme ça. Ma famille, elle est venue, mon père et ma mère, là, mon père, Dieu a son âme, ma maman, 86 ans, Dieu la bénisse, eh bien, ils sont venus, ils étaient les premiers. Après, il y a les cousins qui sont venus, ils ont fait les écoles de médecine, d'ingénieurs, et petit à petit, les gens, ils ont quitté la Tunisie. Voilà, bien, j'ai quitté mon pays, comme disait Enrico Mathias. Et donc, il y a des déplacements de population, pour des raisons économiques, mais aussi des questions sociales, et peut-être, j'inclus l'antisémitisme, malheureusement. Est-ce que les langues métisses sont en voie de disparition? On trouve chez les... surtout dans les familles ashkénazes, il y a un retour un peu au yiddish. Le théâtre yiddish, la langue yiddish, il y a beaucoup de clubs dans les centres communautaires, dans les synagogues, où... on redécouvre le yiddish, le théâtre yiddish, parce que ça faisait partie de la Haskalah. C'est-à-dire que le judaïsme, après la Révolution française et l'émancipation, il a développé la culture juive, qui n'est pas forcément la religion juive, mais c'est une dimension, même si on s'attache au texte, mais on peut avoir les textes, par exemple, d'un point de vue poétique. Vous voyez, il y a des beaux, les psaumes, on peut dire, oui, c'est beau, c'est, si on entend la langue, la sonorité, la musique, etc. Donc, en effet, je ne peux pas dire que c'est un phénomène majeur, mais... certains retournent au yiddish, donc judéo-allemand, pour pouvoir lire les textes. Et aussi, il y a des clubs de judéo-espagnol, le ladino. Voilà. Donc c'est, en fait, c'est pas seulement la langue, c'est tout, on essaie de retrouver la culture, les chants. Ouais, ça c'est ladino, c'est espagnol, vous voyez, et ça on le retrouve aussi au Maroc par exemple, beaucoup, et voilà, donc on essaye de retrouver cette nostalgie d'avant, vous voyez, donc ça peut être la culture, c'est la langue, c'est la musique, et aussi des clubs de cuisine, parce qu'on veut retrouver, parce que les grands-mères ben, sont en train de partir, alors elles ont des secrets, mais elles n'ont pas les quantités. Ma mère, quand on lui demande la recette du gâteau, mets un peu d'huile, comme ça, un peu d'huile, mets un peu de sucre, tu remues, tu goûtes. Mais aujourd'hui, quand on veut faire un livre, il faut dire 30 grammes de sucre, 500 grammes de farine. Alors, on essaye, vous voyez, de retrouver ces traditions culinaires pour en faire des livres, pour transmettre. Vous voyez? Voilà, de façon à ne pas oublier d'où vient nos traditions. Donc, ce n'est pas un phénomène majeur, mais quand même, on trouve. Et bien sûr, alors, bon, en Israël aussi, il y a des musées, voilà, où il y a justement ce développement de toutes ces cultures qui sont rassemblées par le musée de la diaspora, Tel Aviv, où vous avez des congrès, des colloques sur les langues, sur la culture, etc. Bon, comme les juifs ont été un petit peu partout, on peut trouver la tradition juive des Indes. De Chine, il y avait une communauté à Kefang, et même les synagogues étaient en forme de pagode comme ça. Les juifs, ils avaient la tête rasée avec une queue de cheval, là, avec le chapeau. Vous voyez, vraiment dans la culture. Donc, sans être un phénomène majeur, quand même, des nouvelles générations s'intéressent à retrouver un peu les racines d'où ils viennent. Voilà.
Vous parliez de la Chine, là, au passé. Il reste des Juifs en Chine ?
Oui.
Oui, mais ils viennent des États-Unis, ou ils viennent d'ailleurs, et ils font des... ils travaillent en Chine, autour de Pékin. La communauté juive de Kaifeng a disparu, sans doute par assimilation, maintenant, bon, ce sont des Occidentaux qui s'installent en Chine, mais comme il y a des Occidentaux de toute tradition, donc en effet, il y a une communauté juive à Pékin. Mais il y a quand même des mariages mixtes, puisqu'ils se marient avec des Asiatiques, avec des Chinoises, et donc il y a des enfants métis, par exemple. Mais, par exemple, si la femme veut se convertir au judaïsme, à ce moment-là, elle se convertit.
C'est une immigration récente.
Oui, c'est récent. Non, la lignée des juifs de Chine, non. Alors, il y a une tribu, oui, ils disent ils sont des juifs d'origine, donc peut-être des 10 tribus perdues, et ils font le Shabbat, ils mettent les phylactères, les téphilines, et ils se réunissent le Shabbat. Oui, on trouve ça. En Inde aussi, donc Beta Israël, la maison d'Israël, Madagascar aussi, en Afrique aussi. Et alors, ce sont des tribus d'Israël, voilà, et qui forment des petites communautés.
Oui, alors comment explique-t-on cette émigration des Juifs d'Israël à travers le monde ? Est-ce que c'est les conditions économiques, le travail, le commerce ?
Ça peut être difficile quelquefois, on va dire, de partager un repas entre juifs et non-juifs, non ?
Une troisième question. Est-ce qu'il y a pour vous une différence entre l'assimilation et l'acculturation ?
Je vais répondre à votre question. Comment expliquer les diasporas juives, en fait ? Oui, ben ça c'est un fait d'histoire. Il y a eu, bon, d'abord, la déportation à Babylone, vous voyez, ça... C'est la diasporé déjà. Diasporé, c'est un mot de botanique qui veut dire le pollen qui diaspore. Donc il y a eu la Babylonie, ça c'était au 5e siècle. Au 3e siècle, il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand, et les Juifs se sont installés à Alexandrie. C'est d'ailleurs là qu'on a traduit pour la première fois la Bible en grec. On appelle ça la Septante. On dit qu'il y a 70 sages qui ont traduit. La Septante, qui est un livre de référence pour les spécialistes. Et donc, il y avait les Juifs qui étaient installés dans tout le Proche-Orient. Donc aussi en Arabie, voilà. Alors, sans doute pour le commerce, il y a eu des causes, comme par exemple la destruction du Temple, et aussi, petit à petit, pour le commerce, que les Juifs aussi ont été en déplacement. Depuis, on dit les Hébreux d'origine, c'était des nomades, mais ça peut être aussi... pour des questions économiques. Donc, il y a eu des communautés qui se sont développées. Ensuite, il y a eu la destruction du deuxième temple, donc en plus 70. Et là, les Juifs ont été soit volontairement comme esclaves, ou soldats, légionnaires, ou gladiateurs, ou pour des raisons économiques, se sont répandus sur tout l'Empire romain, qui était très grand, donc tout le bassin méditerranéen. Petit à petit, ils se sont installés dans ces régions, et aussi pour des raisons économiques, ben, ils se sont déplacés. On va dire, parce que Ashkenaz, au départ, ça veut dire allemand. Mais en fait, il y avait aussi les Juifs en France, il y avait aussi en Pologne, et petit à petit, jusqu'à l'Europe de l'Est, jusqu'à la Russie. Voilà. Alors, donc, il y a eu, soit pour des raisons économiques, soit aussi pour des raisons d'expulsion. J'ai parlé tout à l'heure, expulsion des Juifs d'Espagne, en 1492, mais un siècle avant, il y avait expulsion des Juifs de France, voilà, avec Saint-Louis aussi. Alors, les Juifs, quand ils sont expulsés, on dit, vous partez, ou vous convertissez, ou vous partez. Bon, il y en a qui sont convertis, il y en a qui sont partis, voilà. Donc, l'Espagne s'est vidée, et c'est le Maghreb qui a pris le relais. C'est pour ça qu'il y a eu toujours des traditions, surtout au Maroc, des traditions andalouses, voilà, qui venaient du Maroc. Ou pareil, quand il y a eu des pogroms en Europe de l'Est, ben, on allait ailleurs. Donc la condition juive est une condition tragique, parce que le peuple juif n'est pas toujours accepté, pour des raisons économiques, pour des questions religieuses, pour des questions sociales, plusieurs raisons, ça, il y a des spécialistes qui disent pourquoi. Bon, on va dire c'est un sous-ensemble du racisme, on va dire, l'antisémitisme, c'est un sous-ensemble, on n'aime pas l'autre. Voilà. Mais ça peut arriver aussi dans une famille, qu'on se moque d'un petit frère parce que, je sais pas, il est trop petit, ou il a des oreilles décollées, ou je sais pas, il a un défaut, ou quoi que ce soit. Donc, comment se situer par rapport à l'autre? Donc c'est, vous voyez, donc je dis, c'est des raisons historiques à plusieurs facteurs, économiques, religieux, politiques, sociales.
Mais, oui, pour compléter cette question, ce qui est étonnant, c'est pas tellement que les Juifs se soient déplacés, parce qu'en fait, ça a dû arriver à des tas d'autres peuples, mais c'est qu'ils se soient maintenus dans leur culture. Parce que bon, les Perses qui ont quitté la Perse, on n'en a plus de traces.
Oui.
Les Grecs qui ont quitté la Grèce, oui, enfin bon, ils ont civilisé les Romains, mais après ça, ça a disparu. Alors que la culture juive, elle, s'est maintenue à travers les siècles. C'est plutôt ça qui est le phénomène étonnant.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, Alexandre le Grand, son projet, c'était une assimilation, justement. C'est-à-dire que finalement, tout le monde devient grec. Mais il y a une résistance. Alors, résistance religieuse. Alors là, il faut rentrer dans la foi d'Israël. C'est-à-dire que la foi d'Israël, c'est la proclamation d'un seul Dieu. Et un Dieu, d'après la Bible, qui a fabriqué ce peuple. Hein, c'est Dieu qui fait en le sortant d'Égypte. Et là, il y a une dimension religieuse de résistance. Par la religion, les Juifs ont été jusqu'à, en quelque sorte, prendre la culture. Vous voyez, voilà, on était des bons Français, mais on ne va pas renier les fondamentaux de la religion. Un seul Dieu, et par exemple les 10 commandements. Alors là, de nous demander de trahir ça, de trahir un seul Dieu, non. Et comme c'était les rabbins qui avaient l'autorité dans les communautés religieuses, en tout cas jusqu'à l'émancipation, alors ils avaient une sorte de contrôle éducatif. Et en effet, le peuple juif s'est maintenu. Et puis il y a toujours eu cette espérance qu'un jour peut-être Dieu se souviendrait de nous, il nous ramènerait les quatre coins de la terre, vous voyez. Alors c'est vrai, le peuple juif a joué à chaque fois la citoyenneté, encore jusqu'à aujourd'hui, où il se trouve, et en même temps, de garder son particularisme. C'est difficile, il faut trouver l'équilibre entre un particularisme et un universalisme. C'est difficile, parce que soit on est trop particulariste, alors on se replie sur soi-même, soit on est trop universaliste et on se perd, et vous avez des juifs qui sont très très repliés sur eux, vous avez des juifs qui sont vraiment dans l'universel, au point que même leur identité juive, à part le nom, ou bien une mémoire assez ténue. Voilà. Mais comment être dans un équilibre? Il se trouve que le peuple juif, de facto, a résisté à toutes ces formes d'assimilation. Peut-être individuellement, il y a pu avoir des conversions, des abandons, etc. Mais on voit que le peuple juif a resté fidèle, parce qu'il y avait la tradition. On avait gardé l'hébreu, par exemple, comme langue de prière. On n'a pas voulu changer de langue, même si des fois on traduisait certains passages qu'on ne comprenait pas. Mais on faisait toujours la bar mitzvah, les mariages à la synagogue, la brit mila à la circoncision. On enterrait toujours, on récite le kaddish, un peu comme notre père, vous voyez. Donc ça, c'est des invariants, si vous voulez, d'une identité qui finalement ne veut pas s'assimiler. Non. Tant que rabbin, même des fois, je rencontre des gens, ils disent, je ne suis pas très religieux, monsieur rabbin, mais bon, j'ai mon identité juive forte, voilà, mais je voudrais le jour de mon enterrement qu'on me récite le kaddish. Je dis, ouais, bien sûr, voilà, monsieur. Ouais. Vous voyez, donc c'est une identité de résistance, quand même. Alors oui, vous avez cette question, elle est vraiment délicate, difficile de partager un repas par entre juifs et non-juifs. Ça dépend des tendances du judaïsme. Si quelqu'un est de stricte observance, et qui veut vraiment manger cachère, ça va être difficile de l'inviter chez vous, parce qu'il va vous dire, peut-être que vous faites cuire dans votre casserole quelque chose qui n'est pas cachère, vous voyez. Bon. Après, il y a des nuances dans le judaïsme. C'est pour ça qu'il y a un judaïsme plus libéral, qui, par exemple, Moi, quand je suis invité dans une abbaye, par exemple, pour, je ne vais pas demander de mettre toute l'abbaye dans la cachérisation. Voilà, donc j'ai la vaisselle et tout ça, pour ces pauvres moines ou moniales. Je dis, bon, dans ces cas-là, voilà, moi je mange la viande abattue, mais pour le reste, voilà, c'est, on peut manger du poisson, on peut manger des salades, manger des choses neutres. Donc on peut trouver, même si des gens m'invitent chez eux. Vous voyez, enfin, quand, là je parle du judaïsme libéral. On peut trouver des moyens, et puis les gens sont respectueux. Voilà, dis-moi alors, ça je sais que vous ne mangez pas, mais je peux vous faire ça, ça me ferait plaisir. Bon. Voilà, donc on peut, c'est pas forcément impossible, mais ça dépend du degré de religiosité. Non mais je dois vous dire plus que ça, madame, de toute façon, pas vous rassurer, mais que vous compreniez bien. Il y a des fois des enfants, ils ne mangent pas chez leurs parents. Parce que les parents, ils étaient traditionnalistes. Moi je vous parle du point de vue, par exemple, des juifs séfarades. Dans le monde séfarade, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, ils avaient une vie juive, très bien, voilà, pas très stricte, mais bon, manger cachère, on est à la synagogue, voilà, et même avec les voisins musulmans, ça se passait très bien, quand il y avait les fêtes, on s'échangeait les gâteaux, on connaissait les fêtes des uns des autres, c'était vraiment un monde merveilleux, quoi. Et quand ils sont venus en France, les enfants, ils ont fait un retour à la religion, mais, c'est-à-dire, stricte observance. Alors ils ont remarqué que les parents, ils ne mangeaient pas suffisamment strict selon la règle. Nous avons ce qu'on appelle la halakha, c'est la même chose que la charia. On est très proches, les musulmans et les juifs. La halakha, c'est la charia. Alors vous voyez, si on ne respecte pas la halakha comme on ne respecte pas la charia, on va dire, ah non, mais ça, c'est pas cachère. Vous voyez ? Alors il y a des enfants, ils ne mangent pas chez leurs parents. Ça, c'est problématique, vous voyez, madame. Alors, nous, c'est pour ça qu'il y a eu le judaïsme libéral, moi je ne dis pas qu'on est majoritaire, mais quand même on défend un peu notre chapelle, parce qu'on dit non, le respect des parents, c'est plus grand que manger cachère. Parce que dans les 10 commandements, c'est marqué « honore ton père et ta mère », mais manger cachère, bon, il y a quelques versets qui disent qu'il faut manger. Et surtout, il y a des versets, il y a marqué 2 fois qu'il ne faut pas manger de porc dans la Bible, mais il y a marqué 15 fois qu'il ne faut pas dire du mal de son prochain. Il faut faire plus attention à ce qui sort que ce qui rentre. 2 fois, il ne faut pas manger de porc, mais 15 fois, c'est-à-dire qu'on connaît l'homme, des fois il est très scrupuleux. Est-ce que, voilà, c'est un grand rabbin, il monte au ciel. Alors, il y a le bon Dieu qui l'accueille. Ah, viens Abraham, viens. Alors, tu vas avoir un repas parce que tu étais un grand juste. Alors, il dit oui, qu'est-ce que je vais manger? Il dit, tu vas manger une belle viande du ciel. Ah, il dit oui, mais... Qui a fait l'abattage rituel? Il dit, c'est Moshe, Moïse, Moussa, c'est lui. Ah, d'accord. Mais qui c'est qui a surveillé C'est Aaron, le frère de Moshe. D'accord. Et qui c'est qui a fait la cuisine? C'est Myriam, la sœur de Moshe Aaron. Ah, bah, je prendrais comme du poisson. Des fois, il faut être un peu souple, vous voyez. C'est-à-dire que... Voilà, c'est une question de la religion en général, mais dans toutes les religions. Est-ce que on va servir Dieu aux dépens de son prochain, ou bien quand on est en bonne relation avec son prochain, c'est aussi une manière de servir Dieu. Moi, je vous donnais un commentaire juif. Ve'ahavta le're'acha kamocha ani Adonai. Je suis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Adonai. Le nom de Dieu, il est passé en troisième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Ça veut dire le prochain d'abord, toi ensuite, et Dieu en dernier. Si tu es capable d'aimer ton prochain, le nom de Dieu va briller entre vous deux. C'est pour ça qu'on se dit shalom, ou salam, ou salut, vous voyez, dans les trois langues, shalom, salam, salut, parce que c'est la paix. Et comme shalom, dans la tradition juive, c'est un des noms de Dieu, donc quand on dit shalom à quelqu'un, c'est comme si on met Dieu entre nous. Vous voyez ? Donc, il y a le risque que la verticalité de la relation, elle va supprimer l'horizontalité de la relation. Mais c'est quand on est bien avec son prochain, quand il y a la paix, que Dieu peut résider. Sinon, je ne suis pas sûr que Dieu puisse résider dans un monde où il y a la guerre et des bombes, etc. Elle dit, c'est plus mon monde, c'est pas ce que je vous ai donné, les enfants. Bon. Donc, c'est possible, chère madame. Alors, assimilation, oui, alors, assimilation... en fait, oui, la différence, c'est que Est-ce qu'on va prendre l'identité de l'autre, au point de ne plus exister soi-même dans son identité propre, ou bien est-ce qu'on va s'intégrer à la culture de l'autre, voyez, pour rester nous-mêmes, mais dans les critères de, du monde dans lequel on est. Bah, en Occident, on va s'habiller par exemple à l'occidental. Alors c'est vrai, quand on, en Algérie par exemple, en Algérie, quand on a les photos des anciens rabbins, donc c'est-à-dire les arrière-grands-parents, bah, ils étaient habillés, ils avaient une espèce de djellaba, comme ça, voilà, comme les gens s'habillaient. Et puis après, on voit les enfants, ils s'habillent à l'occidental. D'un, si vous avez vu le livre Le chat du rabbin, vous avez vu, je crois, le tome 1 ou 2, Le chat du rabbin, donc il y a le rabbin, et du Maroc, je crois, et puis il y a le jeune rabbin qui arrive avec la cravate et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ce rabbin? Il a une cravate, il n'est pas habillé comme moi, il n'a pas les babouches, c'est ça un rabbin? Vous voyez? Alors, oui, parce qu'on a pris les critères de la société dans laquelle on vivait. Considérant que les éléments de culture, ce sont des conventions. Et il n'y a pas obligé de s'habiller comme nos ancêtres s'habillaient. On peut s'habiller, bien sûr, on va dire, d'un point de vue religieux, il faut quand même ce qu'on appelle la pudeur. Voilà, comment ça, la pudeur, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr, c'est la pudeur. Mais maintenant, si c'est un mode de vêtement de la culture dans laquelle on est, voilà, on... Si je vais dans une église, j'enlève mon chapeau. Et si je vais dans une mosquée, ben, je vais retirer mes chaussures. Et si quelqu'un qui n'est pas juif vient à la synagogue, il va aller dans le petit panier avec la kippa. Vous voyez ? C'est une manière de s'adapter et de respecter l'autre. Voilà. Maintenant, on peut très bien avoir des signes en même temps de sa propre culture sur ses vêtements. Voilà, c'est, je dirais que... L'acculturation, oui, c'est une manière d'intégrer des valeurs de la société. Aujourd'hui, par exemple, la société occidentale, elle nous donne des produits que presque tout le monde, qui n'a pas un téléphone, un smartphone, un iPhone. Voilà, même les cultures les plus éloignées, en Afrique, etc., tout le monde va avoir Internet. Donc on voit bien à quel point la société essaye, à travers les objets, de nous assimiler à une certaine culture, des modes de pensée, les chaussures, etc. Alors, comment à la fois être de la société dans laquelle on se trouve, et en même temps, ne pas s'assimiler totalement à cette culture. Je suppose que en Chine, peut-être qu'on s'adapte un petit peu au mode de vie en Chine, je ne sais pas s'il y a des... La culture chinoise, peut-être on peut s'adapter à prendre le thé à la manière des Chinois, par exemple. Voilà, on est assis à genoux sur une table, et puis voilà, ça peut être, on peut être juif et prendre le thé à 16 heures agenouillé devant une table, parce que c'est la tradition chinoise ou orientale. Après, qu'est-ce qui va porter atteinte aux fondamentaux de la foi, et qu'est-ce qui est simplement une manière de s'adapter au monde tel qu'il est?
Le thème était quand même la place de la religion dans la formation du citoyen. De ce point de vue-là, je vous demande un avis subjectif si vous le voulez bien, enfin, entre les trois religions du livre, comment vous situeriez le judaïsme, enfin, est-ce qu'il aurait un avantage compétitif?
Je peux pas. Non, il faudrait qu'il y ait un chrétien et un musulman. Ah oui, c'est la première, pardon.
Alors, je vous pose une troisième question. Est-ce qu'il y a une spécificité dans la formation du citoyen, spécificité juive, dans l'engagement pour
l'islam? Je ne peux pas répondre pour. Il faudrait un imam pour répondre pour l'islam, ou un spécialiste de l'islam, et pas enfin, un spécialiste du christianisme. Dans le judaïsme contemporain, soit à travers alors ce qu'on appelle le Talmud Torah, ça veut dire l'équivalent du catéchisme, et les mouvements de jeunesse, bien sûr, il y a un enseignement, on pourrait dire, éducation civile. Voilà. C'est-à-dire qu'on demande, ça se rend aussi dans les familles, d'être des bons citoyens, Et ça, ça veut dire aussi bien travailler à l'école, respecter les anciens, avoir des bonnes fréquentations. Et en grandissant, on leur dit oui, ben, cet endroit est un devoir d'aller voter. Oui, on enseigne ça. Vous voyez, il y a un enseignement de cela. Et même dans les mouvements de jeunesse aussi, par exemple, surtout chez les scouts, parce que le scoutisme, toute tendance confondue, parce que vous savez, le scoutisme, il y a laïque, mais il y a aussi catholique, israélite, musulman, bouddhiste, depuis quelques années aussi, il y a des scouts bouddhistes, il y a un point commun, c'est le scoutisme. Le scoutisme, c'est un engagement à aider l'autre. Hein, toujours prêt. Toujours prêt. Peut-être qu'il y a parmi vous des anciens scouts, des scouts, scouts un jour, scouts toujours, on dit, et c'est-à-dire vraiment, c'est l'esprit de débrouillardise. Bon, il faut être capable de se débrouiller, de trouver des solutions, il ne faut pas être « ah, je veux, il faut aider », et ça développe aussi l'esprit citoyen. Oui. Donc, dans l'éducation, que ce soit à la maison ou que ce soit donc dans la formation à la synagogue, donc, ou les mouvements de jeunesse, en particulier les EI, parce que j'étais aumônier des scouts, ça fait partie de d'une dimension de la formation. Vous voyez ? Donc on travaille beaucoup sur les textes, l'émancipation, le grand Sanhédrin, etc. Donc les jeunes sont formés à ça. Enfin, ça fait partie de leur mémoire aussi. C'est, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que être un bon citoyen, c'est aussi un commandement de Dieu. C'est pas, parce qu'on ne sépare pas le culte et puis la vie laïque. Par exemple, être honnête au travail, c'est un commandement de Dieu. On ne sert pas Dieu qu'en faisant la prière ou en mangeant cachère, vous voyez. Faire Dieu, quand je suis honnête au travail, quand j'aide mon prochain, ça fait 3 heures qu'il est devant son ordinateur à résoudre un problème, je lui dis « tu veux un café ?» Quand je lui dis « tu veux un café ?» Je traduis de façon concrète, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'ai une conscience religieuse, pour moi, ce n'est pas simplement de lui proposer un café, c'est que le sentiment religieux, ma relation avec Dieu, me dit, ça fait 3 heures qu'il use ses neurones et ses yeux devant cet ordinateur, il n'a même pas eu le temps d'aller prendre un café. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces détails, ça fait de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est aussi de la responsabilité. Ne pas jeter un papier, faire le tri, c'est de la citoyenneté. C'est peut-être plus aujourd'hui, parce qu'en plus c'est de l'écologie, mais ça veut dire que je dois penser au-delà de moi-même. Si je jette un papier, donc peut-être si l'autre aussi jette un papier, un troisième papier, c'est la rue dans laquelle je vais marcher, ça sera comme une poubelle. Donc la citoyenneté, c'est aussi les petits détails. Aider une personne, j'ai tenir la porte, enfin des choses que, voilà, enfin, c'est peut-être notre éducation de notre génération. Hein. Mais oui, c'est enseigné. C'est enseigné. Alors mariez-vous, qui disait oui. Ben oui. Ben, d'après Jérémie, on se mariait avec qui on pouvait se marier. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont mariés aussi avec des babyloniennes. Parce que l'amour, il n'a pas de frontières. L'amour, il n'a pas de frontières. Et comme dans les sociétés antiques, je veux dire avant les rabbins, donc avant le début du deuxième siècle, ça passait par le père. Donc, bah, si le papa était juif ou hébreu, si vous voulez, julien, bah, la femme était. Et puis, les filles aussi, si elles se mariaient, bien sûr, on espérait que, par ce mariage, on puisse intégrer la jeune fille dans la communauté. Mais les grands personnages de la Bible ne sont pas mariés avec des femmes hébreues. Par exemple, on dit que Judas, il s'est marié avec une cananéenne. Voilà. Il s'appelait Tamar. Bon. Et de cette union est né un certain Pérez, qui est l'ancêtre de Boaz, qui est l'ancêtre de David. Donc David, il descend aussi, on pourrait dire, d'un mariage mixte, comme on dit aujourd'hui en sociologie. Joseph, il a épousé une égyptienne. Et ses deux enfants, Ephraim et Manassé, vont être intégrés dans le peuple d'Israël. Parce que Jacob a dit, plutôt que de les rejeter, il faut les intégrer. Moïse, il a épousé la fille d'un prêtre idolâtre, qui s'appelait Tzipora. En français, Sephora. On dit qu'elle sentait bon, le parfum. Et Tzipora. Et voilà, il a eu deux enfants, mais c'était la fille du grand prêtre. Alors, mais Jethro, dans sa relation avec Moïse, il a cheminé vers le Dieu. C'est-à-dire, il a fait le cheminement vers la reconnaissance du monothéisme éthique. Ça veut dire un seul Dieu, et on sert Dieu en faisant le bien. Vous voyez ? Et là, il y a un verset qui dit, maintenant je sais que Adonai, le tétragramme, est plus grand que toutes les divinités que j'ai servies jusque-là. Donc, il a amené petit à petit à comprendre que, c'est dans le texte de la Bible, le quatrième jour, on dit que Dieu a créé le soleil et la lune, et les étoiles. Le texte ne dit pas le soleil et la lune, il dit le grand luminaire et le petit luminaire. Hamma'or agadol, Hamma'or akatan. L'hébreu, il ne sait pas dire le soleil. Shemesh. Yareach, la lune. Alors pourquoi on ne dit pas le soleil et la lune? On dit le grand luminaire et le petit luminaire. Parce que, en écrivant ce texte, on voulait prendre le contre-pied de ceux qui considéraient que le soleil c'est un dieu et la lune c'est une déesse. Alors, on dit, non, c'est pas un dieu, une déesse. C'est des luminaires. Le dieu créateur, le matin, il allume la lumière, le soir, il met en mode veille, il met la petite lune, voilà, comme ça, ça éclaire, mais pas trop, comme ça, on peut aller faire dodo. Vous voyez ? Donc, on peut donc dire que le mariage, au départ, vous voyez, c'était une intégration, oui, et sans que Jérémie n'ait dit, attention, il faut épouser que des... C'est après Ezra qui est arrivé, Ezra qui était assez dur, lui, par contre, et il a dit, non, il ne faut pas garder ces femmes, parce que d'un autre côté, il y avait la peur que les femmes, c'est en général c'est la femme qui fait le mari, ils avaient peur que ces femmes les dirigent vers l'idolâtrie. Toujours cette question-là, est-ce qu'on reste fidèle au dieu 1, ou bien est-ce qu'on va être attiré par les dieux Marduk, Baal, Ishtar, etc. Alors, Ezra a demandé de réfugier les femmes, est-ce que ça a été suivi des faits ou pas? Bon, donc il y avait un côté dur, mais Jérémie, lui semble-t-il, était marié, mariez-vous, ayez des enfants, instruisez-les dans la... Bien sûr, la religion de Jérémie, ce n'était pas la religion des rabbins, c'était quelque chose qui était beaucoup plus souple. Les religions, elles évoluent, voilà, en fonction des époques, des temps, etc., dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et parce que c'est l'interprétation aussi, vous voyez. Bon. Donc, si j'ai répondu à votre question, alors, la dimension de l'éthique, oui, c'est-à-dire, alors ça c'est les prophètes d'Israël en particulier. Les prophètes d'Israël, ça c'est une particularité du prophétisme. C'est que les prophètes, c'est pas ceux seulement qui sont en relation avec Dieu. C'est ceux qui dénoncent les abus de pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. On peut lire les textes des prophètes, de la Torah, que je connais bien, je veux dire, bon, peut-être de Jésus un petit peu, de Mahomet, je connais moins, mais en tout cas des prophètes hébreux, c'est des dénonciations des abus de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire, parce qu'en général, les augures, ou les devins, ou ceux qui étaient inspirés, parce que dans les cultures, il y a eu des hommes et des femmes qui étaient inspirés, dans la cohérence du monothéisme, c'est compréhensible que des hommes et des femmes soient inspirés. Même Mozart, il peut être inspiré. Même Einstein, il peut être inspiré. Il y a toutes formes d'inspiration. Inspiration prophétique, inspiration artistique, inspiration scientifique. D'où ça vient? Alors, un croyant dit, ça vient d'une source. Vous avez une idée? D'où ça vient cette idée? Comment Einstein a trouvé? Oui, égal MC2, mais avec la démonstration. Alors, un croyant, il dit, ça vient de la source de tout ça. Donc il y a différentes formes de prophétisme. Vous voyez, il n'y a pas que le prophétisme religieux. Il peut y avoir une inspiration artistique ou autre, même culinaire. Quelqu'un qui invente une recette, ben, on peut dire qu'il est inspiré de ce point de vue-là. L'inspiration, ça se trouve partout. C'est bien partagé. Alors la révolution, c'est que les prophètes d'Israël ne sont pas seulement des inspirés de Dieu. C'est qu'ils dénoncent les abus de pouvoir. La société hébraïque, elle était fondée sur trois pouvoirs. Le roi, le prêtre et le juge. Pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir législatif. Mais la Bible, elle connaît l'homme. Elle sait que quand quelqu'un a un pouvoir, il veut abuser de son pouvoir. C'est comme ça. Si quelqu'un a un pouvoir, il va abuser de son pouvoir. Même si au début il dit non, non, je ne vais pas abuser du pouvoir. Hein. Ceux qui ont goûté au pouvoir, après dites-leur de quitter la chaise et laisse ta place à un autre ministre. C'est pas facile. Une fois qu'on a goûté, c'est comme ça. Alors, le pouvoir, si tu construis la société pour la justice, pour le bien, c'est très bien. Mais si le roi, le juge ou le prêtre, ils abusent des pouvoirs, comme on voit des récits, même le roi David. Le roi David, il a couché avec une femme qu'il a trouvée. Elle était en train de se baigner sur son balcon. Il a envoyé son mari au front, première ligne, pour prendre la femme. Il a transgressé, tu ne convoiteras pas, tu n'assassineras pas, tu ne feras pas de faux témoignage. Le roi David. Alors, les prophètes, ce sont ceux qui disent qu'on ne peut pas séparer la religion de la morale. Ça va de pair. Donc ce n'est pas simplement le fait de servir Dieu, ce n'est pas de faire des prières. À l'époque de... Regarde, le premier chapitre d'Isaïe, Dieu dit, au nom d'Isaïe, j'en ai assez de vos sacrifices. J'en peux plus. Jusque-là, ras-le-bol. C'est comme si on disait, arrêtez avec vos prières. Il y a des gens qui ont faim dans la rue. Il n'y a pas de justice dans les tribunaux. On paye le juge pour qu'il fasse ceci, il fasse cela. Où est la justice? Où est la responsabilité? Où la solidarité? Comment on aide les pauvres? Alors arrêtez de tuer des bêtes, ça ne me sert à rien. Mes bêtes, c'est à moi. Et allez vous réconcilier. Bien sûr, on va retrouver ça dans les autres traditions aussi. Mais vous voyez, le prophétisme, c'est d'introduire une éthique. C'est pour ça que c'est dangereux d'être un prophète. Parce que dénoncer le pouvoir, on dit Jérémie s'est retrouvé en prison, on dit que Isaïe il a été exécuté à la fin de sa vie, parce que c'était difficile. Ma chanson a dit la vérité, je vais être exécuté. Oui, quand on dit la vérité, on risque d'être exécuté, comme disait Guy Béat. Donc, la dimension prophétique, c'est la dimension aussi de cette éthique. Voilà, de servir Dieu dans le bien, dans la justice, dans